Merci d'écouter RFI. Il est minuit en temps universel, 2h à Séoul, le journal.
Pierre Boudias.
Les travailleurs célébrés partout dans le monde. Hier, 1er mai, dans une ambiance particulière en Turquie où la crise politique couvre toujours. Reportage à suivre dans une Istanbul quadrillée par les forces de l'ordre. Arrestation polémique au Burkina Faso, celle d'un des frères du roi des Mossi, autorité coutumière influente dans le pays. Il pourrait avoir payé son refus de jouer le rôle de médiateur au sein des rangs de l'armée. La Corée du Sud s'enfonce dans la crise politique après la destitution du président Yoon Suk-yeol. Le leader de l'opposition est renvoyé devant la justice, soupçonné d'avoir enfreint la règle électorale, Lee Jae-myung risque 5 ans d'inéligibilité. Et puis des murs, un toit, une porte et des panneaux solaires. Toutes les nouvelles maisons britanniques devront désormais être dotées d'équipements photovoltaïques, une consigne du gouvernement qui doit entrer en vigueur en 2027. On ne travaillait pas dans 163 pays dans le monde hier. Le 1er mai, déclaré férié du Brésil à la Russie, en passant par l'Afrique du Sud et la Norvège. C'était également le cas en Turquie, où la fête du travail se déroulait dans un contexte de crise politique depuis l'arrestation mi-mars d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan. Dans la ville du Bosphore, la plupart des syndicats et des partis politiques s'étaient donné rendez-vous sur la rive asiatique, mais d'autres ont tenté de marcher vers la célèbre place Taksim, interdite au rassemblement. Selon une association d'avocats, plus de 400 personnes ont été arrêtées dans la capitale Ankara. On défilait aussi entre inquiétude et espoir sur place à Nandlauer.
Dans le cortège du 1er mai, les jeunes semblent encore plus nombreux que les années précédentes. Pour Didem, militante du Parti des travailleurs de Turquie, le TIP, c'est la suite logique des manifestations contre l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le 19 mars.
Ce sont les étudiants qui, depuis le 19 mars, portent le mouvement de contestation. En ce 1er mai, étudiants et travailleurs unissent leur lutte. Et il faut qu'il en soit ainsi. Nous sommes tous des citoyens. Et ce sont nos droits de citoyens qu'on essaye de nous enlever.
Okan, 21 ans, est un membre du CHP, le parti du maire d'Istanbul. Crise de la démocratie, crise de l'économie, à ses yeux, tout est lié.
Depuis l'arrestation d'İmamoğlu, la banque centrale a dû puiser massivement dans ses réserves pour soutenir la monnaie. Ça veut dire que dans quelques mois, la situation économique aura encore empiré, les travailleurs souffriront encore plus.
Fatin Kanat est co-dirigeant à Ankara du parti pro-kurde, le DEM. Pour lui, ce 1er mai est plutôt synonyme d'espoir. Celui d'une possible paix entre la Turquie et le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui devrait annoncer bientôt la fin de la lutte armée.
Avancer dans la résolution de la question kurde, c'est aller vers plus de démocratie, plus de liberté, vers la fin des politiques répressives du pouvoir. C'est un espoir de paix pour tout le Moyen-Orient.
Les autorités turques s'attendent à ce que le groupe armé kurde annonce sa dissolution dans les prochains jours ou semaines. Anandleur Ankara, RFI.
La Turquie qui appelle Israël à cesser ses frappes aériennes sur la Syrie, réaction d'Ankara alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou menace de répondre avec force si rien n'est fait pour protéger la communauté druze. Après des affrontements communautaires qui ont fait au moins 100 morts dans la banlieue de Damas, l'un des leaders de cette minorité ismaélite dénonce une campagne génocidaire à l'initiative du pouvoir. Il appelle à une intervention internationale, une solution qui ne mènera qu'à davantage de divisions, lui répond le chef de la diplomatie syrienne. À noter que Washington condamne ce soir les violences contre la communauté druze. RFI, il est minuit 3 à Ouagadougou et cette nouvelle disparition forcée au Burkina Faso et pas des moindres. Abdul Aziz Congo, l'un des frères du roi Moro Naaba, le roi des Mossi, a été kidnappé hier mercredi à Ouagadougou dans des circonstances que Frédéric Gara nous explique.
Abdul Aziz Congo aurait été arrêté ce 30 avril par des individus se présentant comme membres des forces de sécurité. Abdul Aziz Congo, qui est le demi-frère du Moro Naaba, le roi des Mossi, avait donné en septembre dernier une interview sur le site Faso.net. Dans cet entretien, il suggérait que les autorités coutumières et religieuses du Faso fassent respecter les engagements pris, notamment lors de la transition entre le colonel Damiba et le capitaine Traoré en octobre 2022. À l'époque, ces autorités se voulaient être les garantes d'une transition pacifiée entre les deux putschistes, le nouveau dirigeant Traoré devant veiller, entre autres, à la réconciliation nationale, au respect des engagements avec la CEDEAO ou à la cohésion au sein des forces de sécurité, des sujets devenus depuis ultra sensibles et irritants au sommet de l'État. Facteur aggravant, il y a peu, le Moro Naaba aurait reçu, lui, une demande de la part du capitaine Traoré pour jouer les médiateurs dans les rangs d'une armée de plus en plus fébrile, demande déclinée par le roi des Mossi, 24 heures plus tard, son frère était arrêté.
Frédéric Garat. Aux États-Unis, Donald Trump demande à la Cour suprême la révocation d'un statut protégeant les immigrés vénézuéliens. Le TPS accorde à ses bénéficiaires une protection contre les expulsions et leur octroie le droit de travailler dans le pays en raison des conditions de sécurité dans leur pays d'origine ou de catastrophes naturelles frappant ce dernier. 350 000 Vénézuéliens en bénéficient actuellement en raison des violences qui avaient suivi la réélection de Nicolas Maduro. Une première révocation de ce statut avait été bloquée par un juge fédéral californien le 31 mars dernier. Il avait dénoncé le racisme de cette mesure. Les États-Unis qui ont signé avec l'Ukraine un accord véritablement équitable. Ce sont les mots du président Volodymyr Zelensky au lendemain de l'annonce de la ratification d'un texte sur les minerais rares ukrainiens. Selon le président, il permettra de créer de véritables opportunités d'investissement en Ukraine. Pour rappel, il prévoit la création d'un fonds pour l'exploitation des ressources du pays, fonds qui sera abondé à 50-50 par les deux parties. En Corée du Sud, maintenant, la saga se poursuit depuis la crise politique ouverte par la tentative de proclamation de loi martiale de l'ancien président. Les rebondissements se succèdent à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 3 juin. Le grand favori de l'élection et principal opposant à l'ancien président récemment destitué se voit rattrapé par ses ennuis judiciaires, Nicolas Roca.
En quelques heures, la destinée royale d'Lee Jae-myung vers la présidence s'est considérablement assombrie. Le leader du Parti démocrate, ultra favori dans les sondages, devra de nouveau affronter les juges. La Cour suprême a ordonné une nouvelle audience en estimant que le candidat avait enfreint la loi électorale en diffusant de fausses nouvelles durant la précédente campagne. Il risque une peine d'inéligibilité de 5 ans. La course contre la montre est donc lancée, car s'il est jugé coupable avant le 3 juin, le tribunal de Séoul en charge de l'affaire mettra fin à son rêve de présidence. Autre point noir de la journée pour le démocrate, la démission du président intérimaire Han Duck-soo. Premier ministre d'administration conservatrice comme démocrate, il gérait les affaires courantes, mais pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle cette semaine. Cet ancien ambassadeur à la stature internationale est perçu comme un homme intègre, de qualité qui manque à Lee Jae-myung, dont le parcours politique d'élu local a été marqué par de très nombreuses affaires.
Nicolas Roca, plus de 1000 écoles coraniques fermées au Cachemire pakistanais, conséquence des fortes tensions qui perdurent entre Islamabad et New Delhi depuis l'attaque meurtrière qui a fait 26 morts mardi dernier dans cette région contestée. Alors que le premier ministre indien a donné son feu vert à une riposte militaire contre son voisin, le chef de l'armée pakistanaise était en déplacement dans la région frontalière du Punjab. Hier, il a prévenu que tout aventurisme indien rencontrerait une réponse déterminée. Fin de citation. L'Inde, d'où proviendront la plupart des iPhones vendus aux États-Unis au deuxième trimestre, c'est ce qu'indique le directeur général de la marque à la pomme. Une manœuvre afin d'éviter les droits de douane à 145% imposés par Washington à la Chine. Il évalue à 900 millions de dollars le coût total de la guerre commerciale pour son entreprise Tim Cook, qui n'a pas indiqué si une partie de cette augmentation serait répercutée sur ses prix de vente. Les architectes vont avoir du travail au Royaume-Uni. Toutes les nouvelles maisons construites dans le pays devront désormais être équipées de panneaux solaires, annonce du gouvernement de Keir Starmer ce jeudi. Entrée en vigueur du dispositif en 2027 avec un objectif: poursuivre la décarbonation du réseau électrique du pays. Une stratégie qui soulève néanmoins de plus en plus de critiques malgré l'avancement du programme et les premiers bons résultats engrangés. Simon Rosé.
Le Royaume-Uni s'est fixé un objectif. Son réseau électrique doit être neutre en carbone en 2030. 5 ans avant l'échéance, la trajectoire est bonne. Le pays a fermé sa dernière centrale à charbon et 2/3 de sa production d'électricité n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est assurée par du nucléaire ou des énergies renouvelables. Reste donc un dernier tiers, le gaz naturel. Et pour s'en affranchir, le gouvernement travailliste annonce l'obligation d'installer des panneaux solaires sur la quasi-totalité des maisons neuves construites à partir de 2027. 1 500 000 devraient sortir de terre d'ici la fin de la législature. Cette décision intervient à un moment où la politique climatique de l'exécutif est vertement critiquée. Tony Blair, pourtant du même bord, a eu des mots très durs ces derniers jours, dénonçant une politique irrationnelle de neutralité carbone, politique vouée à l'échec, selon l'ancien Premier ministre. En cause, estime-t-il, les sacrifices financiers exigés aux ménages britanniques. De fait, l'installation des panneaux solaires entraînera un surcoût de l'ordre de 4000 euros par maison, mais c'est un investissement qui sera vite rentabilisé, estime le gouvernement, puisque les factures énergétiques des ménages devrait diminuer d'un quart.
Le Royaume-Uni, par ailleurs, bien parti pour être fortement représenté dans les finales des petites coupes d'Europe cette année. Les clubs de première ligue ont brillé en demi-finale allée de la Ligue Europa hier soir, toujours invaincu dans la compétition. Manchester United s'est imposé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, victoire 3-0. Tottenham s'impose de son côté à domicile face aux Norvégiens de Bodø Glimt. Score final 3-1. RFI, il est presque 10:30 en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.